Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut les copains! Vous savez quoi? C'est déjà la dernière de la saison. Ben oui, c'est non sans émotion que l'équipe du magazine Focus Vif s'attellera à la lourde tâche durant l'heure qui suit de commenter l'actualité culturelle des jours écoulés, chacun depuis sa spécialité et tous en tant que journaliste. Oui, monsieur journaliste! Autour de la table, cette fois, il y a Laurent Raphaël, le rédacteur en chef de Focus. Bonjour Laurent.
Bonjour Myriam.
Il y a Laurent Brex, le presque rédacteur en chef, mais en fait non, pas du tout, qui s'occupe des pages musique.
J'y travaille.
J'aime beaucoup ce que tu fais aussi.
Et il y a Olivier Van Varenberg, spécialiste des mauvais genres littéraires et qui fut lui-même longtemps rédacteur en chef, mais pas chez nous, hein, pas du tout.
Bon sens, c'est vrai.
Oui, ça ne nous rajeunit pas. Dans ce 32e numéro de Focus Store, nous nous pencherons sur le premier film du scénariste de Drive, Two Faces of January. Nous écouterons le deuxième album du canot pneumatique géant Lana Del Rey. Nous lirons la BD La Machine à Influencer. Et nous regarderons la télé avec la série Halt and Catch Fire. Il y a du boulot, allons-y, c'est parti.
No, thank you.
Mr. Dunleavy?
I think you get the wrong one.
I represent some very unhappy clients. I'm just here for the money.
Chester?
Oh, God.
The Two Faces of January, c'est le premier film réalisé par Hossein Amini, le scénariste de Drive, notamment. C'est une adaptation d'un roman de Patricia Highsmith. Tiens, Plein soleil de René Clément avec Alain Delon était aussi tiré d'un roman de Patricia, le même qui a donné naissance au talentueux Mr. Ripley d'Anthony Minghella. Et c'est vrai qu'on est pile dans le même registre, vénéneux en costume crème, lunettes persol et borsalino. Cette fois, l'intrigue se pose en Grèce, où un couple d'Américains beaux, riches et troubles passent leurs vacances. Autour du Parthénon, ils font la connaissance d'un jeune guide touristique américain qui va les rejoindre pour dîner. Et très vite, pourtant, la soirée tourne au drame. Il y a un corps, il y a des secrets, il y a un engrenage macabre d'interdépendance dans lequel chacun va tomber. The Two Faces of January est un pur divertissement qui ne hantera pas le spectateur comme les films précédemment cités. Ça manque peut-être d'un poil de malsain pour être vraiment tout à fait jouissif. Il n'empêche, avec son cocktail de moiteur estival, de chic citadin et de poison du mensonge, ce film m'a fait passer un beau moment, stylé comme une pub de parfum. Je vais encore vous dire que le trio est incarné par Kirsten Dunst, Viggo Mortensen et Oscar Isaac qui jouait Llewyn Davies dans Inside Llewyn Davies des frères Cohen. Alors le chef, puisque c'est toi qui as choisi ce film, est-ce que tu es content de ton choix? Je ne pense pas.
Ben, je vais être au risque d'être un peu redondant avec tout ce que tu viens déjà de dire. C'est une petite déception dans
la
mesure.
Pourquoi tu avais décidé qu'on irait voir ce film-là et pas un autre?
Bah, je crois d'abord inconsciemment, peut-être parce qu'il y a Viggo Mortensen à l'affiche, et sans être une dame, j'ai quand même pas mal de sympathie, d'affinité avec son travail d'acteur. Je crois que le personnage fait un sans faute, enfin, c'est quand même humainement, artistiquement, il est au-dessus de la mêlée.
Alors qu'il a été apparemment coupé au montage de plein de films au début de sa carrière. Ça remonte
ouais,
le moral quand
comme
même.
Comme Matthew McConaughey, on a bavé aussi. Enfin voilà, mais on sent que c'est quelqu'un qui a du fond, qui fait ses choix avec beaucoup de justesse. Et ici, il y avait quand même... Bah, déjà aussi, le scénariste de Drive, on se demandait un peu ce qu'il allait pouvoir faire en passant à la réalisation. Autant dire tout de suite, on est très très loin de l'univers de Drive. Et comme tu l'as bien dit, on a cette patine comme ça, un peu vintage, très réussie. Hein, la reconstitution de l'époque des années 60 et de la Grèce, cette fascination pour l'Amérique encore triomphante, un peu ce couple à la Kennedy. Tout ça est superbement bien rendu. Et porté par des acteurs qui connaissent leur boulot et savent installer l'ambiance. Il y a un petit côté Bond même dans le moment du film, enfin tout ce côté vintage dans le meilleur du sens du terme, avec une petite atmosphère à l'Hitchcock. Mais ce côté classieux, classique, l'est sans doute un peu trop. C'est-à-dire que c'est bien mimé, on retrouve les ingrédients, mais c'est, comme tu disais, un peu trop lisse. Moi, j'attendais quelque chose d'un peu plus malsain. On ne dépasse jamais un peu le chrono comme ça. Du coup, le spectateur reste un petit peu à distance de ce qui se passe. Il admire quelque chose de bien foutu, de bien rendu, mais il n'est pas complètement absorbé par l'intrigue. Il n'est pas complètement emmené par la duplicité des personnages, dont on sent assez vite la psychologie. Moi, c'est là que j'ai un petit goût de trop peu, c'est dans la complexité des personnages qui restent un petit peu trop en surface, peut-être justement parce que la forme a un petit peu pris le dessus.
Et toi, Olivier, je t'entendais dire à la sortie du cinéma que ça t'avait semblé durer 2h30 alors que ça n'en dure qu'une heure trente.
Oui, j'étais étonné du temps. En plus, j'étais installé à côté d'un hamster pendant tout le film et donc le temps m'a paru très très, très long. mais bon, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Effectivement, il y a un côté vénéneux. Je ne donnerai pas de nom, je ne suis pas comme ça. Tout le monde l'a reconnu. Mais...
non.
Mais donc voilà, effectivement, il y a des belles promesses en fait au début du film qui fait tout à fait penser, tu parlais de la patine qu'a le film, à Ripley qui avait un côté vénéneux vraiment délicieux et qui là faisait fort penser aux romans d'Ice Smith qui sont très comme ça, qui sont très dans la perversité des personnages. Donc je trouvais que dans la première demi-heure de film, il y a cette promesse-là parce que au début, le personnage le plus inquiétant est celui incarné par Isaac, qui est un peu un arnaqueur. On sent que voilà, c'est un filou un peu trouble. Et en fait, le crime n'arrive pas par lui. Donc voilà, il y a déjà une sorte de twist. Mais c'est pratiquement le seul. Et finalement, il joue pas cette relation. Ce triangle n'est pas si empoisonné que ça. Il est assez lisse, il est assez clair dans les intentions. Et ça perd petit à petit son intérêt, beaucoup, sur la longueur. Et effectivement, ça semble long.
Alors que ça prenait, ça montrait les éléments de vacances où tu vas.
Mais c'est ça, moi j'ai vu un intérêt l'été. Primaire, c'est que je vais exactement à l'endroit, donc j'ai pris 2-3 notes.
Tu espères croiser Viggo Mortensen dans
Non, je me suis dit que je vais pas aller voir Knossos parce que ça a l'air tout pourri, sinon il y a l'air d'avoir des charmants petits bars, donc on verra.
Mais ce côté non dit justement, ils insistent là-dessus, c'est ce qui a plu entre autres à Mortensen dans le fait d'accepter ce rôle, c'est tout. Passer par très peu de dialogue et par des atmosphères, des grimaces ou des expressions physiques. Voilà, non, tout à fait, justement. Mais c'est peut-être ce qui manque pour injecter un peu de trouble dans le scénario, je trouve.
Je trouve qu'il y a quelques faiblesses dans le scénario. On ne va pas raconter toute l'histoire, mais il y a quand même beaucoup de morts accidentelles pour un même homme. En une heure, je trouvais que ça faisait beaucoup.
C'est pas sa journée, quoi.
Une heure après, ça fait quand même beaucoup.
Oui.
Voilà, il y a 2-3 petites choses comme ça, un peu de facilité dans la chose, mais sinon, on va pas dégoûter les gens non plus. C'est quand même, comme tu l'as dit, un très bon divertissement, très bien fait. On est quand même pris dans l'action. Les personnages sont très bons. Je trouve que les acteurs sont tous très bons. Viggo Mortensen est excellent. Kirsten Dunst, j'avais très peur.
Oui, moi aussi.
Je trouve qu'elle tient bien son rôle. Même chose pour Isaac, dont on attend beaucoup, visiblement, ce garçon. Donc, ouais.
Il est bien, il a un gros cul, mais il est bien.
C'est marrant qu'on ne l'a pas vu, les mêmes.
Laurent, ou Brex.
Pas grand-chose à ajouter. Si ça a semblé long, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intrigue non plus. Moi, j'attendais un thriller, c'était quasi plus un road movie qu'autre chose. C'est peut-être
pas ça. Oui, c'est vrai, peut-être. Peut-être il y a beaucoup de langueur, il joue beaucoup sur la langueur et la chaleur, l'exotisme qu'il y a dans cette ambiance et en Crète. C'est amusant aussi de voir le décalage. On voit ça aujourd'hui avec une vision, c'est fait en 62, donc il y a un côté presque historique de Frisson.
Il a utilisé des images d'archives d'amateurs d'ailleurs, qu'il a injecté. Et
ah ouais,
avec succès, puisqu'on ne les voit pas, ça s'intègre très bien. des scènes de foule, de choses comme ça, apparemment, c'est des images d'amateurs de l'époque.
C'est dingue cette histoire. Laurent Aubrec, c'est quelque chose à ajouter? Il faut savoir que Laurent et Olivier se partagent le même micro, et que c'est très compliqué de trouver sa place dans le débat.
Je demande une prime de risque d'ailleurs. Je vais me prendre un truc, un pain avant la fin de l'enregistrement. Non mais voilà, je trouvais ça assez vain et stérile, mais pas déplaisant pour autant. Enfin, c'était plutôt agréable à regarder. Des beaux décors, des beaux acteurs.
Si on pouvait regarder la télé sur la plage, je trouve que ce serait un bon film de plage.
Ouais. C'est vrai.
Il y a l'idée.
Bon, moi je lui mets 6 sur 10 à ce film. Et toi, Laurent?
Oui, pareil.
Olivier?
Elle est quand même à 7. C'est quand même un bon film en soi, un bon thriller qui ne pose pas le jeu. 7.
Ouais, moi 6 aussi.
Et c'était donc The Two Faces of January. Oh, j'ai enfin réussi à le prononcer.
Down on the west coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you've got the music, you've got the music in you, don't you? Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving.
Del Rey de retour, moins labialement pulpeuse, mais toujours aussi tourmentée, si pas plus, à l'intérieur de son elle-même. Lana Del Rey qui avait réussi à agacer ses fans de la première heure à force d'hyper-présence dans les médias avec son album Born to Die. Celui-ci, Ultra Violence, semble mettre tout le monde d'accord, hein, d'après un rapide coup de sonde sur les réseaux sociaux et dans la presse. Lana se la joue toujours Nancy Sinatra ou Roy Knoll, mais cette fois, visiblement, la foule y croit. La faute sans doute à Dan Auerbach des Black Keys qui a produit l'album. Un disque très lent, voire planant, voire surtout amorphe, enfin, c'est mon avis, ennuyeux même un peu. À quelques exceptions près, j'ai trouvé que les morceaux se clonaient les uns les autres, avec toujours beaucoup de Mauve Baby, de noyades de guitare et de minauderies lolly trash assez creuses. Bref, j'ai rapidement passé mon chemin. Laurent Aubry, j'étais entendu en dire du mal sur la première de cet album, alors n'en dis pas du bien pour te faire l'avocat du diable aujourd'hui.
Non, mais comme apparemment tout le monde aime bien, donc moi j'y crois toujours pas.
Oui,
à Lana Del Rey. Elle est super drôle, elle est très comique, elle me fait rire. C'est un vrai personnage un peu bigger than life comme ça.
Drôle, tu la côtoies.
Non, mais il faut lire ses interviews, que c'est quand même assez.
Elle a quand même appelé son album Ultra Violence, quoi.
Oui,
c'est amusant.
Oui, c'est vrai.
Elle tend quand même le bâton pour se faire battre, enfin, quand elle explique qu'elle veut. C'était quoi son interview dans le Guardian
mourir,
où elle dit qu'elle est prête à mourir,
ouais,
enfin, qu'elle aimerait bien que ça traîne pas trop quand même, parce que bon. Elle a dépassé 27 ans. Hein. Elle a dépassé le cap des 27
oui,
ans.
Oui, je pense que.
Oui, parce que ses idoles sont, voilà, sont Mort Jeanne, Kurt Cobain et compagnie.
Il va voir une voyante et lui demande si elle a sa place sur Terre. Enfin, une espèce de
tu te moques, en fait.
Comme ça autour.
Elle est assez sincère dans sa démarche. Moi, je pense pas que c'est fake. Je pense pas qu'elle soit fake. Ça tombe peut-être pas tout juste dans sa tête, mais je pense pas que c'est un produit marketing comme on l'a suspecté pour l'album précédent.
Et pourquoi qu'est-ce qui t'a convaincu?
Une certaine sincérité dans sa démarche. Je pense pas qu'on puisse jouer ce rôle-là comme ça sur la longueur. Oui, mais on peut adhérer ou pas. Moi, j'adhère pas particulièrement, mais je pense qu'elle est dans un trip assez personnel, et c'est à faire jaillir cette intimité, ces troubles, ces failles, tout ce qu'il y a d'un peu branque dans son esprit, elle les faire jaillir, ce qui donne quelque chose d'assez bizarre et peut-être pas perméable pour certains. Mais je crois qu'elle est assez sincère. Elle est dans un trip purement artistique comme ça, ou
moi j'ai l'impression
qu'elle a une définition assez basique de l'art, quoi, de tout donner pour faire rejaillir ses états d'âme. Enfin, elle est là-dedans. Alors elle le fait avec maladresse, parce que justement, je crois qu'elle s'est pris pas mal de râteaux et de critiques, parce qu'on l'a accusée justement de marchandage, enfin de ne pas être très réglo sur la manière dont elle avait fabriqué l'album précédent. Et du coup, c'est un peu un chat échaudé, quoi. Elle s'est un peu repliée. Mais voilà, elle a une sensibilité, à mon avis, qui dépasse peut-être un peu la moyenne, et qui du coup la rend un peu bizarroïde.
T'as eu envie de la sauver, c'est ça?
Non, je crois qu'elle a pas besoin de ça, mais... Mais je trouve son univers assez cohérent, en fait.
Oui, mais t'as pas l'impression qu'elle a piqué tout ce qui marchait bien en ce moment, donc l'imagerie vintage, hipstamatique, la nostalgie d'un temps qu'elle n'a pas connu.
Son imagerie est toute pourrie, j'ai vu 2-3 clips tirés de l'album,
oui.
Ils sont vraiment nuls, hein, donc
ouais,
c'est pas
mais
ça qui m'a fait
c'est
aimer,
une mosaïque de tout ce qui
c'est
marche,
c'est du Chris Isaac mal foutu 30 ans plus tard.
Justement, mais j'ai l'impression qu'elle assume comme ça ce mauvais goût, alors parfois ça marche pas, parce qu'elle est pas... Elle a galéré aussi, était dans son coin, personne s'occupait d'elle, et puis tout d'un coup elle a explosé avec cette vidéo qui l'a rendue célèbre, mais j'ai l'impression qu'elle reste dans un état d'âme où elle cherche une espèce de questionnement profond. Elle a fait des études de philo, elle est un peu dans ce trip là, et ça marche ou ça marche pas, mais voilà, elle continue ce rail là, mais je pense qu'elle est, elle ira jusqu'au bout, quoi. Alors maintenant elle est sous les projecteurs, mais peut-être que demain elle ne le sera plus. Ça ne changera rien à son mal-être profond et à cette mélancolie qui exsute de cette fille, quoi. Voilà, qui a l'air mal dans sa peau et qui doit en effet rendre riche un psy quelque part à New York ou ailleurs.
Mais tu en parles comme d'un petit artisanat, mais il y a quand même Dan Auerbach derrière.
Oui, moi j'ai pas résolu la question de savoir si c'est une créature ou pas. Basiquement, l'album, je trouve qu'il fonctionne, quoi.
Mais c'est ça.
Ah ouais.
Après,
moi, basiquement, je suis passé complètement à côté du phénomène de son premier album. Avant ça, vraiment, je connaissais de nom, mais sans plus. Et basiquement ici, je trouve que l'album, il est hypnotisant. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est difficile d'identifier chaque chanson tellement elle se ressemble. Il y a des côtés, on est au bord du grotesque en permanence, parce que de temps en temps, c'est vrai qu'elle fait vraiment la bouche de canard en chantant, en faisant... Enfin, vraiment très fort. Et pourtant, voilà, moi, j'ai été pris dans cet album. Il y a des morceaux que je suis passé en boucle West Coast. Je trouve que c'est vraiment un morceau terrible. Je trouve que le reste met dans une bulle cohérente qui fonctionne... qui m'a plu, peut-être qu'il faut être dans un certain état d'esprit.
Mais toi qui es un spécialiste des univers dark, t'as vraiment marché à ça?
Je suis pas spécialement dans un univers dark, je suis plutôt... sur mon iPod, quand je l'écoutais, juste après, il y avait Major Lazer, tu vois, donc je suis sorti de la bulle très vite pour passer à autre chose. Mais voilà, ça fonctionnait. Comme je disais, moi j'aime beaucoup Mazistar, vraiment, dès que j'ai entendu le premier morceau, il y avait cette sonorité-là, je sais pas comment il faut l'expliquer, sorte de cold wave teintée d'Americana ou de country, ou un son très, très lent, comme ça, très... Voilà, Mazistar, Hope Sandoval, moi j'ai adoré ça, les Crayons dans mon vieux temps, des choses comme ça, des chanteuses à voix comme ça lancinantes qui gênent un peu presque. Ici, j'avoue que ça a fonctionné, et je pense qu'en bagnole ou un soir ou pour bosser un peu, c'est une super musique, ça fonctionne, quoi. Après, j'ai pas été dans son état d'esprit, de ce que j'ai écouté des paroles, ça m'avait pas l'air de... C'était pas du Bourdieu, quoi, mais... je trouvais, voilà, que c'est cohérent et qu'il y a vraiment des chansons qui te rentrent dans la tête et qui restent et qui fonctionnent. Donc voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album, indépendamment des considérations qu'on peut en avoir autour. C'est peut-être probablement une créature de producteur qui va faire tout à fait autre chose derrière, qui a peut-être finalement pas beaucoup d'identité en elle-même. C'est en tout cas super bien produit, de fait. Tu sens le son, c'est Laurent qui doit nous dire le son a priori du producteur d'un Auerbach derrière, qui est super. Moi, j'adore les sonorités qu'il y a.
Et c'est quand même paradoxal, parce que sur ce disque, elle correspond davantage à l'image qu'elle s'est construite depuis le début, quoi. Mm-hmm. Sur le premier album, elle avait encore des espèces de il y avait un fond hip-hop, musique urbaine, comme ça, qui fait que...
Ah, il n'y a plus.
Et là, il n'y a plus du tout. Alors, quelque part, ça correspond davantage, en effet, à son image. De l'autre, je trouve, du coup, que ça devient beaucoup moins intéressant. Bah, autant... Peut-être. Pour moi, Lana Del Rey... Enfin, à nouveau, la question, c'est pas la... On s'en fout qu'elle soit authentique ou pas dans la pop. La plupart des trucs sont des escroqueries, des montages. Enfin, il y a plein d'histoires généralement abracadabrantes derrière l'histoire des groupes. Donc, c'est pas ça qui est fondamental. C'est plutôt la crédibilité du truc. Et moi, Lana Del Rey, j'entends vraiment une somme de clichés comme ça.
C'est vrai.
La fille d'arc, en effet paumée, qu'on a envie de sauver. Le côté Marilyn Monroe des coulisses, un peu drogué comme ça. Enfin, et Qu'elle alimente ses clichés, pourquoi pas, mais alors quand elle arrive à intégrer de nouveaux trucs dedans, qu'elle arrive en... comme les éléments hip-hop du premier album, voilà, là au moins il y a quelque chose qui apparaît. Alors c'était pas du tout abouti sur Born to Die, c'était un peu même foireux, mais au moins il y avait quelque chose, il y avait une tentative, quoi. Ici, elle rentre complètement dans le truc, et voilà, maintenant l'affaire est close, ouais, quoi. C'est fini, c'est bon.
Et tu vois un tube potentiel là-dedans, comme Video Games en son temps?
Non, pas forcément.
Voilà, il y a des morceaux sur moi lesquels ils ont fonctionné. Wesco, je crois que c'est le premier qu'ils ont sorti. Voilà, je trouve c'est efficace, mais après c'est tellement
single,
lent, c'est tellement
c'est
mélancolique qu'a priori, c'est difficile à en faire, comme tu dis, un tube.
Début de l'année, là, elle avait sorti ce moyen métrage, je crois.
Tropico.
Qui est complètement... Il y a des acteurs qui jouent Elvis Presley, John Wayne, enfin des mauvais sosies comme ça, avec... une esthétique un peu licorne, un peu comme le type de Kanye West,
tout à fait, le genre de délire
sur fond de c'était complètement délirant, mais au moins je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Elle proposait quelque chose, quitte à ce que ça soit kitsch, mais au moins qui sorte un peu du truc un peu souffreteux, un peu
oui, c'est ça, souffreteux.
Ah ça, oui, ça c'est sûr, elle souffre.
Pauvre petit.
Tu vraiment, tu sens, tu l'entends parfois vraiment la bouche en canard, tu le sens, non?
C'est la lèvre qui est coincée par le botox.
C'est dans l'acteur de la série dont on parlera après.
Bon, on va lui mettre une petite cotation. Moi, je lui mets 5 sur 10 à cet album. Parce qu'il n'est pas violemment désagréable non plus. Hein. Effectivement, en bossant ou en faisant autre chose. Leur passage, par exemple, ça passe. Hein. Laurent
6.
Olivier ?
Moi, je laisse parler mon cœur. J'ai un bon 8, voire un 9.
Ah, carrément !
Ouais, j'aime beaucoup cet album.
Bon,
pas révolutionnaire du tout, je rejoins tout à fait ce que Laurent a dit, mais 9.
Et le chef ?
6, pas plus.
Focus-toi ! Reverse engineer an IBM PC with me.
Are you out of your mind ?
If it goes wrong, I'm a college dropout repairing VCRs for $3.25 an hour.
We do our own chip.
Let's turn this thing inside out.
You idiots decided to rip off their flagship product?
This is the only way we get what we want.
There is no we!
There is now.
Imaginez Mad Men transposé 20 ans plus tard avec les tourments et les aspirations des années 80. Imaginez que ce n'est plus la pub qui mène le monde, mais l'informatique, et vous aurez l'argument massue de Halt and Catch Fire, la nouvelle série de la chaîne américaine AMC qui avait notamment donné Mad Men. Avec au casting cette fois un certain Lee Pace, vu dans Pushing Daisies, pour les rares dont je suis qui ont regardé cette jolie série. L'expression Halt and Catch Fire, c'est une blague de geek, apparemment une instruction du microprocesseur censée stopper le fonctionnement de la machine et la faire chauffer jusqu'à ce qu'elle prenne feu. C'est drôle, hein, c'est une bonne blague. Bon. La série n'est pourtant pas une comédie, mais une peinture qui se veut fidèle des balbutiements des ordinateurs personnels. L'intrigue prend place dans une petite entreprise texane qui veut concurrencer IBM. Dedans, il y a une sorte de vendeur de tapis chargé de promouvoir et financer les avancées technologiques. Il y a un informaticien cliché, pellicule, lunettes fumées, un peu genre Dutroux, hein, mais visionnaire.
Et il y a une... Un prix hipster.
Voilà, c'est ça. Dutroux était le premier. Et il y a une petite bibiche rebelle, génie du langage binaire. C'est parfois assez jouissif, hein, parfois très cliché, souvent très obscur, voire même volontairement abscon. J'ai même parfois eu l'impression d'assister à une conférence de Damien Van Acteur, pour ceux à qui ça parle.
On bouffe parce qu'on voit ce que tu veux dire.
Alors, Olivier, ton avis sur la question?
Mon avis, mon Dieu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais écoutez, pas vraiment grand-chose de bon. À la limite, je trouvais ça alléchant. Effectivement, comme tu disais, le Mad Men des années 80, un titre bien geek. On pouvait s'attendre à plein de choses très référentielles. Et finalement, on tombe sur une sorte de série drama comme l'Amérique en produit beaucoup, qui est centrée sur les personnages, leurs prises de tête, leurs relations, qui joue pas trop sur le côté geek, à part quelques moments experts comme ça où on peut en parler. Effectivement, il y a ce cliché infernal qui revient dans toutes les séries, dans tous les films, d'un tableau noir avec un type qui met des formules dessus.
Oui, et d'une fille qui est rouge à lèvres sur un miroir en train de faire des équations, voilà. Parce qu'évidemment les filles ont tout un rouge à lèvres et un miroir.
Voilà, donc voilà, je suis pas trop rentré dedans. Pour l'instant, j'ai vu que deux épisodes, il y en a peut-être trois ou quatre qui ont été diffusés.
Il y en a trois, pour l'instant.
J'ai vu que les deux premiers, je trouvais ça assez décevant. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette série surtout, et qui rejoint ce que tu disais, le parallèle à Mad Men, c'est ce besoin tellement américain de mythifier ou de mythologiser tous les pans de leur histoire, quoi. La pub dans les années 70, ils en ont fait le summum de la culture du XXe siècle. Et ici, on sent ce besoin de faire de l'informatique la nouvelle révolution culturelle, avec des enjeux où ils prennent des accents complètement mélo, oui, sur des choses qui échappent complètement aux spectateurs, sur le PC, le BIOS, enfin, où tu sens que ça n'a pas cette ampleur-là. Et ils essayent de mettre une ampleur dans une série qui, en gros, se joue dans trois bureaux avec quatre acteurs.
Et de créer une émotion.
Voilà. Et ce besoin,
c'est
vraiment de...
dire ça à propos de d'une série qui, enfin voilà, qui est basée sur l'informatique, sur le futur, les internets et tout ça qui arrive, quoi, derrière. C'est quand même
un gros
bouleversement, et ça a commencé là aussi, non?
Oui, mais ils en font quelque chose de presque de mythique, comme le western, comme l'âge d'or de quelque chose.
C'est un peu le cas, quand même.
Oui, mais je trouve qu'ils ne se donnent pas les moyens au niveau de la production, au niveau du budget, au niveau de la manière de faire. Justement, cette série n'est pas geek. Ils pourraient mettre plein d'humour dedans, plein de petites références.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'humour.
Ouais, des clins d'œil.
C'est quand même intéressant qu'on sorte un peu du cliché du geek fan de Star Wars et compagnie pour voir le côté plus geek
ça, je suis d'accord, entrepreneur
qui va bouleverser aussi l'économie du monde.
Tu l'as dit, ce type est un vendeur de tapis. Ici, qui vend des bits ou des ordinateurs ou autre chose, on sent pas dans le personnage, hein, mais dont c'est construit, dont c'est dialogué, ce particularisme qui donne quelque chose au personnage.
Sauf que on voit qu'il
les enjeux économiques derrière.
Probablement à cause d'une histoire personnelle qui l'a mené à l'ordinateur.
Voilà, peut-être,
on
mais
sait pas
des
pourquoi.
Histoires qu'on aurait pu voir dans plein d'autres séries. Et je trouve que les personnages, l'époque, mais bon, encore une fois, on a vu 2-3 épisodes, faut peut-être que ça se mette en place. Je m'attendais à quelque chose de plus générationnel, justement, qui s'adresse vraiment directement à cette génération qui a vécu ça, à qui il ne faut pas expliquer l'importance d'IBM, le côté Darth Vador, du commerce,
de l'informatique
que
ça représentait. Est-ce que tu ne penses pas que finalement c'est plus réaliste de ne pas avoir rajouté sur le côté un peu les gros clichés du geek, et justement de revenir à quelque chose d'un informaticien un peu dépressif qui a des problèmes familiaux et d'alcool, voilà, et que finalement c'est pas plus comme ça que ça se passe que toute la mythologie des...
Oui, mais alors tu ne fais pas un titre qui est un clin d'œil direct à ça, tu ne vends pas ta série sur l'idée le Mad Men des années 80.
Ouais, je me fais l'avocat du diable parce que je ne suis pas trouvé ça exceptionnel, mais je trouve d'aborder ce pan-là de l'histoire comme The Social Network de Fincher a pu le faire, de manière un peu plus, entre guillemets, sérieuse, on va dire. Je trouve que c'est intéressant de voir ce côté-là. C'est quand même les balbutiements un peu de notre époque, finalement, et donc on voit déjà un peu... Et ça, je trouve que ça le montre assez bien, c'est assez édifiant. C'est comment la créativité récupérée par le système... Et finalement, ça, c'est un peu aujourd'hui à l'heure du jour dans tous les secteurs, mais ça fonctionne déjà là, quoi. C'est le créatif qui se fait embrigader par le marchand de tapis et qui va transformer en or ses idées. Et finalement, c'est déjà la corruption de son principe et de sa philosophie même, quoi. Mais il ne sait pas aller contre ça. Et je trouve ça, c'est marrant parce qu'on le voit vraiment bien, quoi. Ce qui m'a par contre plus gêné dans la trame, c'est le personnage féminin qui est une espèce de Lara Croft punk comme ça, caricatural. On dirait que depuis qu'il y a Lisbeth Salander dans Millennium, on a l'impression qu'on nous fourgue une espèce de jeune punkette à toutes les sauces. Et elle est pas crédible. Enfin, je suis désolé, quoi. Ça fonctionne pas. Ouais. Voilà, ça c'est assez artificiel. Et comme c'est quand même un des trois personnages clés, je trouve que du coup l'ensemble boite un peu.
Oui.
Au-delà de tout ce qu'Olivier a dit, que je partage.
Le fait que le personnage est décalé par rapport à son époque, c'est bizarre par rapport aux ambitions de la série.
Tout à fait.
Elle n'est pas du tout années 80, elle est plutôt, comme tu dis, des références d'aujourd'hui.
Oui, déguisée en années 80, quoi.
Mais c'est ça, déguisée, on sent qu'elle est déguisée.
Avec un badge, un pin, c'est un perfecto, et elle croit que ça fait le boulot, mais c'est pas tellement ça. Laurent, toi, ça t'a laissé perplexe, visiblement.
Non. Moi, j'ai vu que le premier épisode.
Ah bah bravo.
J'ai plutôt envie de voir le deuxième, donc le second, donc c'est plutôt un bon signe, non?
Ouais.
A priori.
Bien sûr.
Moi, je trouve que le côté, justement, reconstitution est plutôt bien foutu, y compris dans les nuances, quoi, où c'est censé se passer au début des années 80, donc on voit vraiment qu'il y a encore des éléments des 70s, enfin,
presque dans les fringues. Il y a la sortie du Retour du Jedi, donc le troisième Star Wars, je crois que c'est en
83. Voilà, c'est ça.
Et la bande-son aussi est assez marrante.
Et la bande-son est marrante, enfin, je trouve que le son même de l'imprimante ou de l'ordinateur qui démarre, on dirait qu'on on a lancé une centrale thermonucléaire. Tout ça, c'est assez...
Oui, parce qu'à l'époque, IBM a inventé le premier ordinateur personnel, mais qui fait la taille d'une pièce, quoi. Oui. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment lancer, développer un ordinateur portable, on devine un peu. Mais
ça aussi, peut-être aussi les limites de la série, en tout cas dans ce que j'en ai vu au début, c'est qu'effectivement, il y a déjà Apple, il y a déjà IBM, et c'est une société fictive.
Oui, c'est dommage.
On ne sait pas trop où on va la situer. Ça aurait été mieux fait si c'était un faux Apple ou un faux Google ou un faux... Faut Windows ici, on sent pas trop où ils vont aller parce que les places...
Ça coûtait trop cher, monsieur. Il fallait...
Sans doute, c'était copyrighté, sans doute, au niveau des termes, mais... Voilà, on sait pas trop où ça va aller dans la révolution, a priori, de ce que je connais en tant que geek ou de cette génération-là. La révolution est déjà arrivée. Il y a IBM, il y a Apple, et Windows arrivera bien après. Donc, on est dans un no man's land. On ne sait pas trop où on va aller par rapport à cette époque-là.
Et tu voulais nous parler de Botox, non
Je trouve que l'acteur, le premier... Tu parlais d'un casting, tu citais l'acteur
Lee
de...
Lee Pace.
Voilà, je j'accroche pas du tout à cet acteur. Je trouve qu'il est pas crédible, que ça sonne creux et qu'il a.
Très années 80 pourtant, je trouve.
Oui, c'est vrai. Ça, mais on dirait qu'il sort de Dallas, quoi, vraiment.
Ah, il est très beau. Moi, je suis plutôt client.
Il a un problème de bajou collé au botox.
Il a un petit côté Bogdanov, mais.
Oui, c'est ça.
Il mesure 2m10. Il est plutôt bien.
Quand moi, j'ai surtout vu, je te dis, ses joues en botox comme ça, qui m'ont vraiment impressionné, qui cassaient tout le reste, figé comme ça du regard. Et...
Surtout ses sourcils, je trouve qu'ils sont impressionnants. C'est des vrais rats musqués, en fait.
Le 2m10, ça m'a pas sauté aux yeux. Le cul de l'acteur non plus dans le film d'avant. Hein,
non, mais où est-ce que tu as tes yeux, enfin.
Pas sur la même chose que toi, mais.
Bon, Laurent, une petite conclu, non? Non, toi, non.
Moi, je regarderai le deuxième épisode, donc je suis plutôt client.
D'accord.
Et puis, ça pose quand même... Enfin, on va pas... si on peut un peu dévoiler l'intrigue, enfin, c'est pas vraiment l'intrigue,
mais... Oui, bah, ton premier épisode, oui, ça va.
Tu peux y aller. En gros, donc, il démonte une machine IBM pour voir comment fonctionne la puce, pour voir... Pas la reproduire, pas vraiment la reproduire, mais...
L'adapter.
Retrouver un nouveau modèle. Et oui, et franchir encore une étape, aller plus loin, trouver un nouveau modèle qui... Enfin, je trouve qu'il y a un esprit comme ça, nouvelle frontière, très américain, à vouloir aller toujours plus loin. Et ça pose toutes les questions qui ont cours aujourd'hui, quoi. Les questions de copyright, et en effet, le mélange entre le créatif et l'industriel qui peuvent fonctionner ensemble, parce que malgré tout, derrière, l'industriel a quand même une ambition créative derrière. Enfin voilà, je trouve que malgré tout, en filigrane, il y a 2-3 enjeux qui peuvent être intéressants à creuser dans la série.
Ouais.
Qui ne le sont pas beaucoup de ce que j'en ai.
Ouais, qui sont originaux. Voilà.
Mais je suis d'accord sur sa thématique, c'est passionnant, évidemment.
Oui, ça aurait été peut-être mieux fait, quoi.
Voilà.
Ouais, voilà. Bon. 6 sur 10 pour Halt and Catch Fire.
7.
6. Ouais, 6 aussi.
Bon, 6. 3 épisodes ont donc déjà été diffusés sur la petite chaîne à payage AMC. Dernier objet culturel de la saison, une BD, une solide BD, La Machine à influencer. C'était pas un roman graphique parce qu'ici c'est pas un roman en fait du tout.
C'est un essai graphique.
Voilà, c'est l'histoire du journalisme et sa critique, ainsi que la critique du public. Ça, c'est intéressant. Par une américaine, elle-même journaliste, Brooke Gladstone, qui commence par démonter l'idée reçue selon laquelle les médias servent de noir dessin et manipulent le public à cet effet. Et alors, à cette époque très théorie du complotiste, déjà, moi, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Elle parle aussi des sondages et de la confiance qu'il ne faudrait pas leur accorder, des grandes arnaques de la presse, de l'influence d'Internet sur l'opinion publique, des grands scandales qui ont émaillé l'histoire. C'est très, très dense. Hein. C'est long, c'est documenté, c'est présenté avec fantaisie, mais très, très, très sérieusement argumenté. Pour nous, journalistes, c'est évidemment passionnant. C'est typiquement le genre de bouquin à offrir à un étudiant en journalisme. Mais Olivier, dis-moi, est-ce que tu penses que ça peut aussi intéresser d'autres gens ?
Eh bien, c'est une bonne question, Myriam, et je pense sincèrement que non.
Oui.
Donc, voilà, donc c'est Laurent, le chef, qui a proposé le bouquin, qui est effectivement une somme. Hein. Ça ne se lit pas comme un roman graphique, ça prend du temps, et c'est vraiment un essai. Il y a beaucoup de textes et c'est très fouillé. Donc, tu l'as dit, c'est une critique des médias, un peu particulière, parce qu'on a l'habitude, en tout cas pour ceux que la critique des médias intéresse, d'avoir une critique, justement, très critique, plutôt à la Noam Chomsky ou à la Bourdieu, donc très féroce sur les médias, la médiacratie. Ici, effectivement, ça prend plus de recul, peut-être trop, c'est là où moi j'ai mis mon niveau du fond des limites. Donc ça prend du recul par rapport à ça, et ça propose une critique des médias qui est plus responsabilisante par rapport au public.
C'est vrai.
Donc ça décrypte, donc c'est une approche historique,
inédite, hein.
Sociologique, que américaine. C'est aussi la limite du bouquin, et c'est le seul écueil, c'est que c'est beaucoup trop américain. Ça ne parle que de ça, avec des exemples qui ne sont que les leurs, qui ne sont pas nos médias, que ce soit dans l'histoire de la naissance des États-Unis, avec l'importance des textes premiers, la liberté de la presse, ce genre de choses, l'affaire du Watergate, le Vietnam. Tout ça, c'est des éléments fondateurs de leur histoire du journalisme, qui n'est pas la nôtre spécialement, et qui est beaucoup développée dans le bouquin. Donc voilà, elle prend la distance par rapport à ça. C'est un regard très critique plutôt sur les politiques, sur ceux qui influencent les médias, sur ceux qui essayent d'en s'en emparer, sur le pouvoir qui n'est que dans une logique de propagande et qui forcément essaye depuis toujours de manipuler les médias et qui a à sa disposition une série d'outils qui sont décrits dans le bouquin ici et qui sont évidemment passionnants. Après, elle est tellement déculpabilisante par rapport aux médias qu'à un moment, elle en devient presque corporatiste. Donc, c'est une critique de ceux qui mettent pression sur les médias, c'est une critique sur ceux qui lisent les médias, et finalement elle dédouane presque, ou beaucoup, ou un peu, ou en tout cas beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de lire, les médias en eux-mêmes et les journalistes en eux-mêmes. Donc forcément, on a une lecture, nous, en tant que journalistes, différente de ce bouquin-là. Ça nous intéresse, c'est passionnant, comme tu l'as dit, il faut évidemment le conseiller à tous les étudiants en journalisme, à tous ceux qui s'intéressent à cette chose-là. Après, la forme du roman graphique et du BD reportage que moi je défends beaucoup depuis des années, ici atteint ses limites parce que ça ne rend pas les choses plus légères.
Non,
c'est pourtant
vrai.
Un auteur costaud. Hein. L'auteur, c'est celui qui a fait American Splendor, pour situer, qui est une grande série, un grand comique américain, une ligne très claire. Mais bon, c'est pas très inventif au niveau de la forme. On reste quand même dans des tartines de texte à n'en plus finir.
Oui, il y a des choses qu'elle ne sait même pas mettre en forme en BD.
Voilà, des métaphores. Il y a parfois des traductions, j'avoue, qui rendent le texte pas évident non plus à lire. Donc, la légèreté qui devrait amener par la forme, je trouve, n'est pas tellement là. C'est passionnant, mais c'est pas le meilleur dans le genre.
Non, mais enfin, elle arrive quand même à développer des concepts très abstraits, des questions presque d'éthique, philosophique, etc., à les amener avec nuance, ce qui est quand même pas évident en bande dessinée. Donc, moi, je trouve qu'elle arrive quand même à une certaine complexité quand tu regardes la masse d'informations
qui
c'est
très,
présentée.
Très documenté,
c'est assez intéressant. Bon, maintenant, voilà, l'exercice a ses limites. C'est plus un essai illustré. Avec quand même de l'humour aussi, je trouve qu'elle amène sa subjectivité, ce qui fait qu'il y a, il y a quand même un point de vue original, comme vous l'avez dit tous les deux, sur la culpabilisation quelque part aussi du public qui a sa part de responsabilité dans les médias.
C'est sa conclusion, médias qu'on mérite. Voilà.
Mais je trouve, voilà, déjà de le signaler, de le démontrer à travers des exemples historiques en faisant appel à la psychanalyse, aux neurosciences et tout, je trouve que c'est assez riche. Alors, c'est vrai que ça n'intéresserait peut-être pas le tout venant. En même temps, il ne faudrait pas dégoûter les gens non plus.
Non, et ça devrait, c'est intéressant.
Parce que voilà, c'est les questions, à la fois les questions futures, parce qu'elles se projettent aussi dans l'avenir par rapport à ce qui pourrait nous attendre. Elles montrent bien qu'on est dans une espèce de logique qui a toujours eu cours et que ce n'était pas mieux avant. Que des logiques de puissance, que ce soit politique, qui donnait le là à l'époque, aujourd'hui ont été remplacées par des puissances économiques, mais que finalement on a toujours été dans des enjeux comme ça, et que c'est pas pire aujourd'hui nécessairement. Voilà, tout dépend finalement. Elle responsabilise un peu l'individu qui peut, selon ses choix, qui peut poser des actes qui vont déterminer un petit peu à la fois les médias qu'on va avoir et aussi ce qu'on veut bien en faire. Et l'exemple type, c'est avec Internet, qui est la meilleure et la pire des choses. C'est à la fois une chambre d'écho, comme elle dit, où on peut s'enfermer dans un petit cercle et se couper complètement du reste du monde, encore bien plus qu'avant, ou au contraire, dans ce cas-là, avec tous les dangers que ça supporte, puisqu'il n'y a plus d'altérité,
ça polarise les opinions. Oui,
voilà, ou alors, au contraire, être beaucoup plus ouvert, et comme elle le disait dans une interview, parce que ce n'est pas directement dedans, avec Internet, les gens curieux sont encore bien plus informés qu'avant, et ceux qui ne le sont pas sont encore beaucoup plus bouchés et fermés qu'avant.
Ça intensifie les tendances déjà existantes.
Et donc, je trouve ces questions-là, elle les pose très bien avec un filet scientifique. Enfin, voilà, elle montre avec des études et tout ça. Donc, c'est vrai, c'est dense, mais je trouve que tout le monde devrait s'y plonger pour un petit peu comprendre avec les réserves. C'est vrai que c'est très américano-centré. Elle fait beaucoup appel à l'histoire des États-Unis pour faire ses démonstrations. Mais avec un peu d'imagination, on peut transposer ce qu'elle nous démontre avec notre réalité, notre propre...
Je crois que la réalité de la presse belge est quand même largement plus sinistrée que la presse américaine, simplement par la taille du territoire et le nombre de possibilités.
Oui, il y a des différences fondamentales entre
évidemment.
La sociologie des médias aux États-Unis ici n'est pas la même.
Mais les enjeux éthiques, comme Internet, forcément, on y est tous confrontés. Quoi.
Les pressions qu'elle décrit, les billets comme elle les appelle dans le bouquin, on les retrouve sur Généraux, bien sûr.
Laurent, avance-toi et donne-nous ton avis.
Je lisais le livre dans le bus et j'étais assis à côté d'un jeune zazou à dreadlock qui était fort interpellé par le bouquin, qui me demandait un peu quel était le parti pris, le point de vue. Donc j'ai essayé de lui expliquer et je pense qu'il pensait au départ, il trouvait en effet une version BD des théories de Chomsky. Et puis quand je lis un peu.
Parce que le titre est très vite démonté.
Oui, tout à fait.
Quoi. Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est trompeur.
Mais elle-même, je trouve, enfin, c'est vrai qu'elle elle responsabilise le lecteur, le spectateur, mais en même temps, je trouve qu'elle charge quand même régulièrement les journalistes. Elle explique s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils l'ont toujours été aussi. Enfin,
c'est ça.
Et ce qui rend le truc aussi très complexe et très dense, c'est qu'elle est toujours dans une espèce d'exemple contre exemple, exemple contre exemple, et elle a chaque fois une étude pour en contredire une autre. Alors c'est très déstabilisant parce qu'au final, on ne sait plus trop quoi penser, ni ce qu'elle-même en pense finalement. Mais c'est aussi la richesse du bouquin. Ouais. Quoi.
Parce que ça évite un jugement qu'elle pourrait avoir.
C'est assez culotté de faire ce genre d'ouvrage. Après, c'est vrai qu'il faut s'accrocher par moments. Enfin, s'accrocher.
C'est facile à trouver, ça, dans le commerce, cette
BD. Oui, c'est une bonne librairie. Ça et là, c'est un bon éditeur.
En tout cas, à Paris, dans le Marais, le livre s'affiche dans toutes les vitrines. Donc, visiblement, pour être jeune, cool, fun et bigarré.
Tu dois le feuilleter.
Ouais, voilà. Moi, je lui mets quand même 8 sur 10 à ce livre. C'est quand même du costaud. Hein. Laurent.
Un 8.
Un 7.
Et moi 8 aussi.
Voilà, La Machine à Influencer est publiée aux éditions Ça et Là, et c'est Brooke Gladstone qui en a sur le récit et Josh Neufeld qui est au dessin. Nos derniers coups de cœur de l'année, pour conclure, vous les avez tous préparés, oui, non. Alors, moi j'ai lu un joli livre qui n'est pas tout neuf, mais on s'en fout, hein, on est là aussi pour exhumer des trucs. Il s'appelle « Il faut beaucoup aimer les hommes » de Marie Dariussecq, qui écrit... vous n'avez
pas lu,
non.
J'ai pas lu ce précédent.
Elle écrit dans une jolie langue classique et inventive, ce qui aurait pu être sous la plume d'une autre qu'un ramassis de pipelerie à l'eau de rose, à savoir l'histoire d'amour éphémère entre deux acteurs hollywoodiens, elle, blanche, lui noir. Le roman fait souvent référence à des figures connues comme Matt Damon, comme George Clooney. Ça pourrait être grotesque ou abominablement pop mainstream, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est triste et c'est délicat. Comme la citation dont est issu le titre du livre, c'est du Marguerite Duras. Il faut beaucoup aimer les hommes, beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela, ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter. Et c'est tellement vrai.
Ça sent le message personnel.
Oui, absolument. Laurent, non, tu veux que je revienne à toi un peu plus tard?
Non, je peux me lancer.
Oui, vas-y, je t'en prie.
Je reviens sur un disque dont on a parlé récemment, c'était Aurora de Ben Frost.
Mm-hmm.
Qui est un musicien électronique ambient qui a fait un disque un peu là pour le coup assez sombre, noir et assez comment dire, on est vraiment dans le bourdon et dans quelque chose d'assez sonique et d'assez lourd à digérer, mais en même temps terriblement accessible. C'est pour la petite histoire, c'est un disque qu'il a enregistré en partie en accompagnant un photographe anglais dont j'ai oublié le nom, mais qui vient de gagner la Deutsche Börse, qui est un gros prix en photojournalisme, enfin en photo. Et donc les deux se sont rendus en RDC, dans l'est du Congo, dans le Kivu, le Kivu encore aujourd'hui qui est complètement ravagé par les combats entre les différents groupes rebelles qui ne savent même plus eux-mêmes contre qui ils se battent. Je crois que s'il y a un lieu qui ressemble à l'enfer sur Terre, ça doit être ce coin-là. Donc il y a un côté interpellant et voire dérangeant à créer une œuvre dans des conditions comme ça. Enfin, je voyais le gars avec son laptop au milieu des camps de réfugiés. Enfin, il y a quelque chose de peut-être indécent. Ce qu'il en fait au final est assez terrible. Si vous voulez passer un plomber votre été, n'hésitez pas
à plonger.
Vous plongez dans ce disque, mais qui est vraiment interpellant, fascinant et voire hypnotisant.
Bon, tu nous rappelles les références?
C'est Ben Frost et le titre de l'album, c'est Aurora.
Merci Laurent.
Si je ne me trompe pas.
Mais certainement pas.
Non.
Ne te trompe jamais Laurent. Ça Olivier.
Je te l'ai fait rapide, j'ai pensé au format des vacances, donc pas trop grand, et on va rester
gentil
dans le principe de l'été déprimant, avec un excellent polar affreux. donc il s'appelle 911 ou 9-11 de Shannon Burke. C'est l'histoire d'un ambulancier new-yorkais. 911 ou 9-11, c'est pas une erreur.
Oui, non.
Voilà, mais 911 pas comme la date du crash d'avion, mais plutôt comme principe de l'ambulance et des urgences. Et donc c'est une plongée dans les urgences new-yorkaises et c'est très très bien écrit. C'est très dur, mais ça se dévore. Et voilà, je le conseille vraiment très fort chez Sonatine.
Qu'est-ce qui se passe chez Sonatine, Olivier?
Bonne question.
Qu'il prenait congé.
Non, il y a eu un problème avec 13e note édition.
Ah, c'est 13e note.
Voilà. Non, ça, c'est un drame. On n'en a pas parlé ici. C'est plus un coup de cœur parce que malheureusement, il ne se passera pas grand-chose. Mais voilà, 13e note édition, qui est un éditeur français qui avait 5 ans d'âge et qui sortait beaucoup de traductions, beaucoup d'auteurs de la sous-culture, rock, punk, enfin vraiment des très bonnes choses. A priori, met la clé sous la porte, sans doute à la fin de l'été. Voilà.
Okay.
Mais pour être sur une note plus gaie et joyeuse, et je crois qu'on avait parlé dans un précédent podcast,
oui,
le tome 2 de ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme. Donc l'auteur, dont le nom m'échappe
Sylvain
à chaque
Mazas.
Fois, Sylvain Mazas, exactement. Le deuxième tome, exactement sur le même principe. Une sorte d'autobio rigolote remplie de schémas, de petites structures, de tableaux noirs. On en parlait avec des petites bulles, des carrés, des anagrammes. Enfin, génial.
Il est toujours au Liban ?
Il est revenu, il est en Allemagne, mais il parle de ses expériences au Liban. Il essaye toujours de résoudre le conflit, d'avoir son diplôme qu'il n'a pas encore. Et voilà, c'est très drôle, c'est très léger, c'est très inventif au niveau de la forme. Et voilà, c'est l'antithèse de la machine influencée au niveau de la densité des
oui,
intentions, mais c'est léger et très drôle.
C'est profond aussi, hein.
Ah,
on apprend des choses.
Exactement, on apprend plein de choses et il y a un vrai fond derrière l'humour du gars, il y a vraiment plein de choses. Donc c'est les éditions Vroom, si je ne me trompe pas. Voilà.
C'est ça, qui nous conseille de ne pas acheter ce bouquin sur Amazon. En général, il
arrive
sur la couverture.
Mais bien sûr, il ne faut jamais acheter chez Amazon.
Non, c'est vrai. Bon, Laurent, le chef.
Eh bien... deux petites choses. Une que Laurent aurait pu nous souffler, c'est les mix que les Ten Days of Balance pour leur dernière édition. Et
comment ça, leur dernière édition?
Oui, donc les Ten Days of s'arrêtent.
Mais non.
Mais oui.
Cet été.
C'est quand même un signe. Tomorrowland double son week-end pour son 10e anniversaire.
Les Ten Days of mettent
la clé sous
paillasson. Ils en profitent, ils balancent gratuitement tous les meilleurs mix de leur 10 ans, voilà. Donc de DJ Mehdi à Laurent Garnier, etc. Intégralement. Donc si on veut frimer à la maison, on lance la bande son et on lève les mains et on fait un tabac parce que forcément c'est du gros calibre, quoi. Et alors sinon, bah, j'avais pensé à l'été aussi pour rester dans la vanne noire et avec un autre Burke, mais celui-là c'est James Lee Burke, Creole Belle, son nouveau roman. Donc James Lee Burke qui est connu notamment pour l'adaptation par Bertrand Tavernier de Dans la brume électrique. Mm-hmm. Et qui a inventé un personnage de shérif adjoint, Dave Robichaud. Voilà, c'est nouveau, l'univers Louisiane, la moiteur, un mélange comme ça de bayou, d'atmosphère un peu moite. Ça, c'est typiquement un petit peu le scénario pour un film à la mode, voire à la True Detective. Ouais. Mélange de religiosité, mais un peu dévoyé. Voilà, avec des personnages troubles. Voilà, c'est délicieux ici. C'est une histoire de disparition de jeune fille qui hante Dave Robichaud. Et c'est idéal pour passer un été en
sueur. On a la pêche en ce moment.
Emportez ce podcast avec vous d'ailleurs. Des heures de détente.
Tu nous rappelles le titre ?
Donc c'est Creole Belle, James Lee Burke.
Eh bien merci. Eh bien c'est déjà la fin. Déjà, vous imaginez, oui, la fin de l'émission, la fin de la saison. Mais j'espère. Je vous souhaite un bel été, plein de cinéma, de musique, de séries, de lectures surtout, puisqu'au fond, l'été a été inventé pour ça. D'ailleurs, notez-le, Focus Juif continue sa ponte durant les 2 mois qui viennent. On ne vous abandonne pas. Je terminerai avec un gros merci aux journalistes et aux chefs de Focus de se plier à l'exercice radio toutes les 2 semaines depuis 2 ans. Pour rien, ou presque, enfin pour rien, pour la reconnaissance internationale du public. Mais bon, tout ça en plus du reste, ça peut faire beaucoup. Je vous salue bien bas. Merci à l'équipe.
Merci à vous, Myriam.
Merci,
ah, merci à tout le monde. Merci, merci.
J'ai l'impression d'être enfin l'école, comme ça, tu vois, avec la maîtresse, on lui donne des prénoms.
Ah, ben oui, j'avais vu une bouteille de vin quand je suis arrivée, je pensais que c'était pour moi. Eh ben non, pas du tout, c'était une erreur. Bon, et comme disait Feu Carlos, big bisous. Ciao.
Ciao, ciao.
Salut.